Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 18 septembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal Les Sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et d'abord les titres du journal. L'Australie s'est fixée pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 62 à 70% d'ici 2035. À Gaza, Israël annonce l'ouverture d'une nouvelle voie de sortie de la ville pendant 48 heures alors que les bombardements se poursuivent. La mobilisation de ce jeudi en France et 900 000 manifestants sont attendus partout dans le pays. Et on passe au journal de ce jeudi. L'Australie s'est fixée pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 62 à 70% d'ici 2035, conformément à l'objectif climatique annoncé par le gouvernement. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que cet objectif était conforme aux recommandations de l'Autorité du changement climatique. Il a annoncé un financement de 2 milliards de dollars à la Clean Energy Finance Corporation pour contribuer à l'atteinte de cet objectif. Il a également annoncé une augmentation importante du financement du secteur des ressources pour la transition vers les énergies renouvelables.
We know that getting emissions down in the resources sector and heavy industry is the next major area and will help heavy industry to do the heavy lifting. Today we're announcing a new net zero $5 billion fund in the National Reconstruction Fund to help large industry decarbonize and scale up more renewables and low emissions manufacturing.
La chef de l'opposition fédérale, Susan Lee, a déclaré qu'elle ne soutiendrait pas la neutralité carbone à n'importe quel prix suite à une lutte interne au sein de son parti sur l'objectif climatique. Lors de son premier discours économique depuis sa prise de fonction à la tête de la coalition au Comité pour le développement économique de l'Australie, Mme Lee a été interrogée sur sa position sur l'énergie suite à la menace du député libéral Andrew Hastie de quitter le siège, le front bench du Premier ministre si le parti approuvait l'objectif de neutralité carbone.
My colleagues and I agree with wholeheartedly, which is why I've said and others have said that we will not have net zero at any cost, because the cost can be too high. And right now, it looks like the cost is too high when you consider what this government is about to do.
Le Premier ministre Anthony Albanese estime qu'un traité de défense entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sera signé dans quelques semaines. Les procédures ministérielles des deux pays doivent être achevées avant la signature du traité. Un communiqué a été signé durant cette semaine de commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vis-à-vis de l'Australie. Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, affirme qu'il n'y a aucun point de friction concernant le traité et qu'il s'attend à ce que le cabinet le ratifie prochainement.
It is in this vein and in the thought of preservation, in the thought of our national interest, security comes number one. And as your Prime Minister, I made a conscious choice. A choice knowing our history, knowing our culture, knowing our ethic value and moral value systems, knowing our democratic ideals. We made conscious choice that Australia remains our security partner of choice.
Des milliers de personnes ont célébré hier leur citoyenneté australienne à l'occasion de la journée de la citoyenneté australienne. Des cérémonies ont eu lieu dans tout le pays permettant à des personnes de plus de 140 pays de devenir citoyens. Au cours des 12 derniers mois, jusqu'en juin, l'Australie a accordé la citoyenneté à plus de 165 000 personnes. Les cinq principaux pays de naissance sont la Nouvelle-Zélande, l'Inde, le Royaume-Uni, les Philippines et le Vietnam. Le ministre de l'immigration et de la citoyenneté, Tony Burke, a souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont choisi l'Australie comme patrie.
There's been some terrible messages that some people have been receiving about immigration. I'll be presiding at a massive citizenship ceremony and I'll have one message for every new citizen, and that's to say to them, welcome home. We are grateful that they chose Australia and welcome home.
Le projet de construction d'un stade qui accueillerait les Devils, l'équipe de footy de l'AFL de Tasmanie, a subi un revers majeur. La commission de planification a recommandé de ne pas construire le stade de Macquarie Point, estimant qu'il est trop grand pour le site. En fin de compte, ce sont les députés du Parlement de l'État qui décideront de l'avenir du projet, car il devra obtenir l'approbation des deux chambres du Parlement. Le premier de Tasmanie, Jeremy Rockliffe, affirme que le rapport de la Commission sous-estime les avantages sociaux et économiques et insiste pour que le projet soit poursuivi.
Well, I disagree. I mean,
you disagree with the report.
This is intergenerational infrastructure. This is not just for the next 3 to 5 years. This is for the next 30, 40, 50 years. This is intergenerational infrastructure that will build aspiration amongst our young people, give opportunity and hope.
Les parents et les grands-parents offrent de plus en plus d'aide financière à leurs proches. 20% d'entre eux ont déclaré en avoir apporté au cours du dernier trimestre. Une enquête menée par la société d'investissement UBS auprès d'environ 1000 personnes a révélé que la majeure partie de cette aide concernait les frais de subsistance, soit environ 5 000 $ en moyenne. Une aide allant jusqu'à 200 000 $ a été versée par les 28% ayant contribué au financement de l'achat d'un bien immobilier. Stephen Wu, économiste chez UBS, affirme que cela montre que le coût de la vie est une priorité pour la plupart des Australiens. Il ajoute que la banque des parents, Bank of Mum and Dad, comme on l'appelle ici en Australie, contribue à une hausse des intentions de consommation.
So we know that income growth has been quite strong. We know that inflation is easing and it's within the RBA's inflation target band. That means that real wages are growing again. So I think there is quite a good sign that the worst is behind us, and we're going to see for those younger Australians, this boost to real incomes helping to alleviate cost of living pressures, and that will certainly be beneficial for them and for the economy as well.
Le président américain Donald Trump a profité du banquet d'État britannique offert en son honneur au château de Windsor par le roi Charles. Donald Trump a présenté les États-Unis et le Royaume-Uni comme les défenseurs du monde anglophone. La mobilisation de ce jeudi en France et 900 000 manifestants sont attendus partout dans le pays. La mobilisation s'annonce plus forte que lors du mouvement Bloquons tout. 80 000 policiers et gendarmes seront déployés à travers le pays. Et la bonne nouvelle, en sport, le Paris Saint-Germain a battu les Italiens de l'Atalanta Bergame lors de la première journée de la Ligue des Champions. Sofiane Amazian, Radio France. International.
Une balade à l'italienne, mais on est sur le même champ lexical hein, pour le PSG qui a bien démarré cette nouvelle saison en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui s'impose nettement face à l'Atalanta Bergame, 4-0, le tout dans une ambiance particulièrement belle, il faut le souligner, ce soir au Parc des Princes. Tout a finalement failli se jouer en première période, ouverture du score rapide du capitaine Marquinhos, bien servi devant le but par l'Espagnol Fabian Ruiz. Le but du break est venu du pied droit de Gvisha Kvaratskhelia, géorgien, juste avant la pause. Bradley Barcola a lui vu son pénalty repoussé par le gardien adverse. Et 1 et 2 et 3-0. Retour des vestiaires grâce à Nuno Mendes, le défenseur portugais. Le dernier but, eh bien, c'est sur une erreur grossière de la défense italienne qui profite à l'attaquant Gonçalo Ramos. Paris n'a pas tremblé malgré les absences. L'Atalanta, eh bien, n'est jamais vraiment entré, pardon, dans son match, piégé hein, par cette envie parisienne ce soir d'envoyer un message clair. Oui, ils sont champions d'Europe en titre, mais l'appétit est encore là pour réaliser le doublé en fin de saison.
Autre résultat d'hier, le Bayern de Munich a battu Chelsea 3-1. Liverpool s'est imposé contre l'Atlético de Madrid 3-2 et l'Inter de Milan a battu l'Ajax Amsterdam 2-0. D'autres nouvelles de sport tout à l'heure lors du magazine des sports qui sera présenté par notre collègue François Vantôme. On passe à la météo pour ce jeudi en Australie, à Perth, il fera 19 degrés, Adélaïde 23, Melbourne 21, Hobart 17, Canberra 18, Sydney 21, Brisbane 28, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 34 degrés. Fin du journal, merci à vous de l'avoir suivi. Et comme promis, on passe maintenant au magazine des sports et vous êtes en compagnie de François Vantôme.
Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce journal des sports de ce jeudi 17 septembre. On revient sur la Ligue des Champions avec Mbappé et le Real qui ont fait craquer l'Olympique de Marseille. Mené 1-0 dans son antre du Santiago Bernabéu, le Real Madrid a renversé la rencontre avec un doublé de Mbappé pour s'imposer 2-1 pour son entrée en lice en phase de la Ligue des Champions. Surpris par les Marseillais qui ont ouvert le score contre le cours du jeu avec un but de Timothy Weah, les Madrilènes ont égalisé sur un pénalty de Kylian Mbappé. À la 29e, le capitaine de l'équipe de France a doublé la mise à nouveau sur pénalty à la 81e alors que ses coéquipiers étaient réduits à 10 après l'expulsion de Dani Carvajal pour un coup de tête. On écoute le français Aurélien Tchouaimani sur Kylian Mbappé et les objectifs du Real Madrid cette saison.
Je pense que Kylian, il a envie de gagner tous les titres possibles. Il en a déjà gagné énormément. Évidemment, on sait tous qu'il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Ici à Madrid, c'est un objectif du club. Donc, j'ai envie de dire dans un an qu'il aura gagné la Ligue des Champions. Ça voudrait dire qu'on l'aura gagné en tant que club et tout le monde sera content. Donc, le plus important, c'est d'être performant à tous les matchs, comme on essaye de le faire en tant qu'équipe, match après match.
Dans les autres rencontres, on retiendra dans un match totalement fou, mené 4-2 dans le temps additionnel, la Juventus a arraché un improbable nul 4-4 devant son public face au Borussia Dortmund. Les Anglais d'Arsenal, demi-finalistes sortants, ont battu l'Athletic Bilbao 1-0, futur adversaire du PSG, grâce au coaching gagnant de leur entraîneur basque, Mikel Arteta. Dans les autres rencontres, novices dans la compétition, les Belges de l'Union Saint-Gilloise ont remporté avec brio leur premier match de la Ligue des Champions à Eindhoven face au PSV 3-1, tandis que les Azerbaïdjans de Karabakh ont créé la surprise en s'imposant 3-2 au Benfica Lisbonne. Les mondiaux de cyclisme à présent, la France avec Alaphilippe et Sexas au Rwanda. Julian Alaphilippe et Paul Sexas, 18 ans, font en effet partie de la sélection française pour les championnats du monde de cyclisme sur route qui auront lieu au Rwanda. Sexas, grand espoir du cyclisme mondial, participera au contre-la-montre dimanche avec Bruno Armiral et enchaînera ensuite sur la course en ligne le 28 septembre à Kigali. Alaphilippe, Pavel Sivakov, Julien Bernard, Valentin Paré-Peintre, Valentin Madouas, Jordan Jega et Louis Barré sont les autres coureurs retenus par le sélectionneur Thomas Voeckler pour la course en ligne. À seulement 18 ans, Sexas s'apprête donc à faire ses débuts avec les grands, un an après être devenu champion du monde junior du contre-la-montre. Cette saison, Sexas a réussi des débuts tonitruants chez les professionnels avec l'équipe Decathlon AG2R qui ambitionne de remporter le Tour de France d'ici 5 ans. On écoute Thomas Voeckler qui nous explique la sélection et les espoirs qui reposent sur le jeune français Sexas.
Voilà, nous tous pensons autour de qui sommes là réunis, pensions que moi le premier, le vélo c'était un sport à maturité tardive, hein, 27-32 ans les meilleures années, il faut encaisser avant d'être fort, on a compris que c'était plus le cas. Et puis depuis quelques années, les gars qui ont le truc en plus qui arrivent, et on l'avait pas en France. Maintenant on l'a. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien moi en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ce dont je suis convaincu, c'est que c'est pas un championnat du monde à 18 ans qui va cramer un coureur. Ça c'est clair que non, surtout sur une course d'une journée. Paul Sexas pour moi c'est un coureur comme un autre. Par contre avec un talent qu'on n'a pas connu en France depuis qu'on a les outils de mesure justement précis. Donc à partir de là, le protéger, moi j'ai pas envie de me casser la tête à savoir comment manager Paul Sexas, tiens est-ce qu'il faut que je fasse attention, je vais le faire comme avec les autres, naturellement en cernant, hein, même si j'ai déjà bien commencé, mais sa personnalité, sentir de quoi il a besoin, s'il a besoin d'être rassuré ou à l'inverse. Faut pas juste le moteur pour faire un champion ou un très très grand champion, il faut aussi le caractère et la tête. Lui, ce qu'il doit faire, c'est pédaler, aller au bout de son rêve avec les bonnes personnes. Voilà. Et si ça passe pas, c'est qu'il n'était pas fait pour encaisser ça et que c'est pas lui parce que c'est pas juste le moteur pour être le coureur qu'on attend, quoi. On va le dire, le successeur de Bernard Hinault.
Athlétisme, la Kenyane Faith Kipyegon a décroché son 4e titre de championne du monde du 1500 mètres mardi à Tokyo en terminant en 3 minutes 52 secondes et 15 centièmes. Également triple championne olympique de la distance, la détentrice du record du monde a mené sa course d'une main de maître en tête des débuts à la fin. Elle a devancé sa compatriote Dorcus Ewoy et l'Australienne Jessica Hull. Avec 5 titres mondiaux, dont 1 sur 5000 mètres, 3 titres olympiques en 2 ans seulement, Kipyegon continue de réécrire une page entière de l'histoire de l'athlétisme. Jamais personne, hommes et femmes confondus, n'avait autant dominé le demi-fond.
Vous savez, ce n'est pas si facile de toujours gagner tous les ans, de battre des records. Ça demande beaucoup d'exigence, de travail et beaucoup de patience. Depuis que je suis toute jeune, je fais ça, pousser mon corps, travailler dur pour accomplir toutes ces performances. J'y arrive encore. Je suis tellement contente de célébrer ces victoires avec mon pays, toutes ces médailles. Et aujourd'hui, il fallait gagner ce 4e titre mondial.
Kipyegon enchaîne dès vendredi avec les séries du 5000 mètres discipline où elle a aussi un titre à défendre. Quant à Jess Hull, 28 ans, originaire de Wollongong, eh bien l'Australienne a puisé dans toutes ses ressources pour remporter une médaille de bronze sensationnelle. Aucun Australien n'avait jamais remporté de médaille aux 1500 mètres lors d'un championnat du monde d'athlétisme. La Française Sarah Madeleine, elle, termine 8e. Enfin, nous restons dans la francophonie et faisons un petit tour à Bruxelles avec du tennis. Les organisateurs du tournoi du plus grand tournoi de Belgique, ATP 250, a dévoilé son plateau. Malgré la concurrence de Stockholm et Almaty, il y a de quoi séduire tout fan de tennis. 4 membres du top 20 ont en effet confirmé leur présence à l'European Open mi-octobre. L'Italien Muzzetti, demi-finaliste à Roland-Garros et quart de finaliste à l'US Open. Le Canadien Félix Auger-Aliassim, le Tchèque Leeka et l'Espagnol Davidovich Fokina seront présents. Le clan belge tout auréolé de sa victoire en Coupe Davis le week-end dernier contre l'Australie sera lui dignement représenté. Zizou Bergs en leader, David Goffin et Raphaël Collignon bénéficieront quant à eux d'une invitation. C'est la fin du Journal des Sports, il est temps de se quitter. À très bientôt.
13h19 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et on vous propose maintenant l'hymne national d'Australie pour marquer la journée de la citoyenneté australienne célébrée le 17 septembre.
Australiens, réjouissons-nous tous, car nous sommes un et libres. Nous avons une terre riche et de la richesse grâce à notre travail. Notre patrie est cernée par la mer. Notre terre abonde en dons de la nature, d'une beauté riche et rare. Dans chaque page de notre histoire, faisons avancer l'Australie vers la grandeur. Alors chantons dans la joie. Faisons avancer l'Australie vers la grandeur. Sous notre croix du Sud radieuse, nous travaillerons de nos cœurs et de nos mains pour faire de ce Commonwealth qui est le nôtre le plus renommé de toutes les terres. Pour ceux qui sont venus d'outre-mer, nous avons des vastes plaines à partager. Unissons-nous avec courage pour faire avancer l'Australie vers la grandeur. Alors chantons dans la joie. Faisons avancer l'Australie vers la grandeur.
Eh bien, comme chaque jeudi, c'est l'heure du journal de l'économie et vous êtes en compagnie de Marianne Murat et de Nicolas Perpich.
C'est la rubrique économie avec Nicolas Perpich. Nicolas, bonjour.
Bonjour Marianne.
On va d'abord parler du Premier ministre, Nicolas, parce qu'il s'est rendu dans la région de Perth, Anthony Albanese. Il vient d'annoncer 12 milliards de dollars supplémentaires pour renforcer la construction navale et les sous-marins australiens, notamment dans le cadre de l'accord AUKUS. Expliquez-nous, on sait que cet argent il va servir à développer le nouveau complexe de défense de Anderson, hein, c'est près de Perth, là où vous êtes actuellement. Expliquez-nous comment ça va se passer.
C'est exactement ça. C'est vraiment pour développer l'infrastructure maritime juste au sud de Perth, à un endroit qui s'appelle Henderson. Et c'est pour que, en fait, ils peuvent construire des bateaux, mais aussi travailler sur les sous-marins qui font partie de AUKUS, les sous-marins nucléaires. C'est un très, très, très gros projet. Là, c'est 12 milliards de dollars. En fin de compte, ça va faire à peu près 25 milliards de dollars. Mais ce qui est intéressant économiquement, c'est que selon le Premier ministre, ça va créer 10 000 jobs, 10 000 postes de travail. Donc, ça, c'est sur 20 ans. Donc, c'est pas immédiatement, c'est sur deux décennies. Mais il y a des questions. Est-ce que vraiment ça va créer autant de jobs? Et d'où vont-ils venir, tous ces gens-là? Parce qu'il faut des compétences très particulières. Alors... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura 3,5 000 de ces jobs qui seront des postes avec l'armée ou les forces de défense australiennes, déjà. Et le reste, ce sera en construction, des ouvriers avec des compétences très spécialisées pour travailler dans l'industrie maritime. Et donc, je suis allé voir dans cet endroit de Henderson pour parler aux gens, pour parler au business de ce qu'ils ont pensé. Et par exemple, je suis allé voir un homme, Andrew Naves, qui a une compagnie qui s'appelle All Ship Engineering. Et déjà, lui, il fait 95% de son travail avec l'armée ou avec les forces de défense ici en Australie. Et lui, il pense que ça va beaucoup l'aider. Il aura bien plus de travail. Et il a déjà 50 employés, mais il pense qu'il va devoir grandir jusqu'à 70 employés. Il va pas juste aller chercher des ouvriers, des gens qui ont déjà ces compétences. Ce qu'il veut faire, lui, c'est trouver des jeunes gens dans l'endroit et les entraîner, des apprentis. Parce qu'il dit que pour lui, c'est plus facile. Il peut les entraîner et leur faire apprendre exactement ce qu'il faut, parce que c'est tellement spécifique. Alors pour lui, c'est plus facile de faire ça au lieu de re-entraîner quelqu'un d'autre qui a peut-être plus d'expérience, qui travaille depuis plus longtemps. Et en fait, dans son business, il a déjà 15% d'apprentis, ce qui est beaucoup, parce que souvent, c'est juste 6 ou 7%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le gouvernement de cet endroit, le City of Coburn, le local government, ils encouragent les jeunes gens qui sont encore à l'école de penser à ça, de savoir qu'il y aura plein de travail dans ce secteur, et donc de réfléchir et peut-être de après l'école aller à TAFE ou aller ailleurs pour faire des études dans ces endroits-là, parce que c'est sûr qu'ils vont pouvoir trouver du travail et c'est bien payé. Sinon, les autres opportunités ici, c'est aller travailler dans les mines. Mais aller travailler dans les mines, dans la région du Pilbara ou dans les Kimberleys, c'est très loin. On est très isolé. Et là, on peut rester sur place, pas loin de la famille, pas loin des amis. Donc ça, c'est beaucoup plus attirant, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà un peu comment ça va peut-être se passer, se développer sur site. Pour les régions autour de ça. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un cas d'un projet global, local, AUKUS, et l'impact local.
OK. Et cette annonce d'Anthony Albanese, elle est intervenue dans un contexte un petit peu particulier. On a parlé d'AUKUS et il y a notamment les États-Unis qui mettent une énorme pression sur Canberra pour augmenter ses dépenses militaires. Là, on est d'accord que ce lieu, ça va accueillir les navires AUKUS, mais ça va aussi accueillir la flotte australienne hors AUKUS.
Oui, bien sûr. Oui, ça va. Mais en fait, ça va non seulement les accueillir, mais c'est là où ils vont construire des bateaux pour la flotte australienne, donc des landing crafts, par exemple, et des frigates. Il y a un accord qui a été signé avec le Japon, qui vont construire des frigates pour l'Australie, et les premiers vont être construits au Japon. Et après ça, l'idée, c'est qu'ils vont être construits ici à Henderson. Donc, cet argent, c'est pas juste pour AUKUS. C'est pour beaucoup plus d'autres choses. Oui.
OK. Et vous parlez des milliers d'emplois qui allaient être créés. Ça nous fait la transition un peu toute trouvée avec notre deuxième sujet, puisque j'imagine que la plupart de nos auditeurs ne sont pas passés à côté des derniers événements en Australie. Il y a eu plusieurs manifestations anti-immigration avec des manifestants, mais aussi des représentants de l'extrême droite hein, dans le cortège, et en cause notamment les critiques contre l'immigration, les critiques contre les politiques migratoires de l'Australie, mais aussi cette peur que les immigrés puissent voler le travail des Australiens. Mais ce que vous allez nous expliquer, Nicolas, c'est que non seulement c'est pas du tout le cas, mais en plus, en fait, on manque de main-d'œuvre immigrée.
Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai. Et pendant ces manifestations tout autour du pays, moi, je suis allé à des manifs pour le travail ici. On entend des gens qui disaient, oui, le problème, c'est cette masse d'immigration, des trop d'immigrants qui viennent ici, et ça crée de la pression sur le marché de l'immobilier, etc., etc. Mais en fait, selon le secteur lui-même de l'immobilier et de la construction, voilà, c'est un peu l'inverse. En fait, il n'y a pas assez d'ouvriers qualifiés, de travailleurs avec les compétences nécessaires pour construire le nombre de maisons dont on a besoin. Parce qu'on a beaucoup parlé de cette crise dans l'immobilier. Il n'y a pas assez de maisons. Elles sont trop chères. Ça prend trop longtemps à construire. Et donc, Master Builders Australia, qui est une organisation qui représente voilà, ce secteur de construction, ils disent que voilà, c'est vrai que l'immigration, ça met de la pression sur le secteur de l'immobilier, des maisons, mais pas dans le sens dont on en pense. C'est vraiment qu'il n'y a pas assez de... Il faut plus d'immigrants avec les compétences dont on a besoin. Et ça va nous aider à résoudre cette crise dans l'immobilier. Et ils disent que ça fait longtemps, en fait, que le nombre d'immigrants avec ces compétences est en train de baisser. Et on peut dire que maintenant, il y a un quart de tous les gens qui travaillent dans ce secteur de construction qui sont des immigrants. Mais ça, c'est moins que c'était avant. Et donc, c'est le secteur lui-même qui veut pousser le gouvernement à changer ça. Et qu'il y en a plus qui vont venir. Donc, c'est assez surprenant, mais ils disent que on a besoin de plus de menuisiers, plus de plombiers, plus d'électriciens, plus de plâtriers, plus de couvreurs. Et c'est vrai en même temps. Il faut le dire que le gouvernement a une liste d'occupations avec des compétences et tous ces jobs-là en font partie. Mais il en faut plus. Et là, on a vu après les manifs que le gouvernement a dit « Ben non, on va pas en fait lever le taux d'immigration, il va rester où il est. » Mais selon l'industrie, selon le secteur, il en faut plus.
Ok. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci beaucoup.
h 34 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et on passe maintenant à la deuxième partie de l'interview avec Robert Pledge, qui est le cofondateur de la dotation Catherine Leroy. Et il nous parle de la photojournaliste Catherine Leroy, dont les photographies sont exposées au Ballarat International Photo Biennale jusqu'au 19 octobre prochain en Australie. L'exposition s'appelle One Way Ticket to Vietnam, 1966-1968. Quel est l'héritage de Catherine Leroy? Car elle a pu tracer un chemin pour les femmes avec les photos prises au Vietnam qui l'ont fait entrer dans l'histoire du photoreportage.
Oui, alors, et c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la peau sans le savoir. Elle n'était pas consciente de ça. Elle ne s'en préoccupait pas. Il y avait une tradition féminine, mais très, très, très étroite en photographie dite de combat, de guerre. Évidemment, des personnages assez connus comme Lee Miller ou Margaret Bourke White, qui étaient des Américaines, ou Dickie Chappelle, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. Alors, c'était des Américaines, toutes les trois, et ça s'explique d'ailleurs très bien, parce que la Seconde Guerre mondiale et après la guerre, les photographes qui pouvaient se déplacer dans les zones de combat étaient essentiellement des Américains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de photographes femmes, il y avait peu de photographes d'ailleurs du tout qui couvraient les combats parce que l'Europe était occupée, alors que les Américains, qui d'ailleurs avaient des moyens, des ressources à travers des publications extrêmement importantes comme Life, et Look, et le National Geographic, et Vogue, qui offraient des contrats importants à leurs photographes, dont quelques femmes, dont j'ai mentionné le nom. Catherine Leroy était la seule femme, était indépendante, n'avait aucun soutien particulier, et était obligée de se débrouiller, ouais. Débrouiller toute seule, et avec... une persistance, un courage tout à fait exemplaire.
Et comment est-ce que la dotation Catherine Leroy fait pour faire perdurer la mémoire de cette photographe?
Quand Catherine Leroy est décédée en juillet 2006, elle n'avait que 61 ans, elle n'avait pas vu un médecin depuis un quart de siècle, ou un peu plus même, mais elle se sentait mal, vraiment, et elle est allée finalement à l'hôpital, et a été diagnostiquée avec un cancer généralisé, et deux semaines plus tard, elle est partie. Donc c'était vraiment terminal, et elle a attendu la dernière minute, quand, voilà. Moi, je l'avais vu quelques mois auparavant avec Don McCollin, le célèbre photographe de guerre britannique, à San Francisco, où il y avait un hommage qui lui était rendu à elle, Catherine Leroy, et elle nous avait invités à venir parce qu'elle ne voulait pas être la vedette de son propre hommage et assister pour qu'il y ait des gens qu'elle respectait qu'il soit présent. Et on l'avait vu dans un état vraiment très détériorée, on était très préoccupés, et donc quand elle est morte quelques mois plus tard, on n'était pas très surpris. Mais c'est quelque chose d'extrêmement triste. Elle a essayé de refaire une seconde carrière aux États-Unis, en Californie, pensant que peut-être en travaillant dans le monde Hollywood, du show business, elle arriverait à gagner plus de sous. Mais ça, c'est une illusion. Moi, mes photographes de guerre ne sont pas toujours à préparer à entrer dans un autre univers. Elle était, à mon avis, clairement victime du fameux syndrome post-traumatique. Elle ne le reconnaissait pas, mais elle en avait tous les symptômes, c'était clair. Et ça a été une fin de vie extrêmement difficile pour elle. Elle ne s'était jamais vraiment occupée de son héritage photographique, était dispersé à travers le monde dans des magazines, dans des agences filières ou autres comme Gamma et SIPA et des agences françaises. Et il nous a fallu, quand elle est morte, à quelques-uns des gens qui la connaissaient se sont dit, ça c'est terrible, mais c'est un personnage unique. Elle a été première lauréate en photographie du prix Georges Polk. Elle a été la première femme à recevoir la très prestigieuse médaille d'or Robert Capa. Tout son travail est dispersé. Elle va être complètement oubliée. Elle l'est déjà. C'est pas possible. On doit faire quelque chose. Et à quelques-uns, c'est ce qu'on a fait. On a passé 2 ans à essayer de regrouper tout le matériel qu'on pouvait à travers les connexions que nous avions. Et puis l'aide de la seule survivante de Catherine Leroy, sa mère, Denise Leroy, une petite dame absolument adorable de 93 ans, qui évidemment était très préoccupée par la situation et nous disait, mais moi je connais rien à tout ça, je ne sais pas comment m'y prendre. Et on lui a dit, ne vous inquiétez pas, on va s'en charger. Mais elle a été une source d'information évidemment extrêmement précieuse. Et finalement, elle a été une source de plus que d'information parce que peu avant qu'elle ne meure elle-même, elle avait 93 ans quand on l'a rencontrée, quand Catherine Leroy est morte. Et à un moment donné, quand j'ai compris que son héritage était destiné à aller à l'église catholique dans sa totalité. Je suis allé la voir et j'ai plaidé avec elle de ne pas oublier la petite chapelle de Catherine Leroy. Et évidemment, elle a été surprise. Elle a dit, mais vous avez raison, je vais réécrire mon testament et je vais donner de l'argent à cette dotation, qui est une sorte de fondation à but non lucratif, extrêmement contrôlée par les autorités culturelles, etc. Et elle a fait don à cette dotation, donc, d'une part de l'œuvre dans sa totalité, les négatifs, les tirages, les diapositives, tout ce qui était écrit, tout ce qui était publié d'elle, qu'elle avait conservé chez elle dans sa maison à Anguin. Et elle a aussi donné de l'argent pour pouvoir gérer tout ça, qui nous a permis d'entreprendre ce travail initial de regroupement, d'organisation des archives, et pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait en faire. Il nous a fallu longtemps pour arriver à donner une forme qui nous menait en fait au livre, un aller simple pour le Vietnam, et donc à l'exposition, qui est la première exposition jamais tiré entièrement à partir du travail original et des négatifs et des diapositives de Catherine Auroi. C'est une grande première. Ouais. Le hasard fait que c'est en Australie, des séries de rencontres, et je suis absolument ravi que ce soit là, et je crois que Catherine Auroi aurait aimé que ce soit là, parce que c'est un endroit un peu inattendu. On aurait pensé à la France, bien sûr, et aux États-Unis, où elle a quand même une réputation, certainement, dans les milieux professionnels, sinon auprès du grand public.
Orbot Pledge, merci infiniment de nous avoir éclairé sur les œuvres de Catherine Leroy, et peut-être un petit message à lancer aux gens qui nous écoutent pour les encourager à aller voir cette exposition à Ballarat dans le Victoria en Australie.
Oui, je crois que il y a quelque chose de très contemporain, hélas, j'allais dire, à propos de cette exposition, parce que c'est évidemment le Vietnam des années 60, mais ce Vietnam des années 60, c'est un conflit qui n'est pas extrêmement différent des conflits actuels à travers le monde, de l'Ukraine à Gaza d'ailleurs, où Catherine Auroi a d'ailleurs passé énormément de temps, parce que après le Vietnam, elle passera une dizaine d'années, peut-être un peu plus même, à travailler essentiellement au Moyen-Orient, et essentiellement ou en grande partie sur toute la question d'Israël et de la Palestine et des Palestiniens, et de ce conflit qui se poursuit encore. Et j'espère que cette exposition de Palara va être un premier pas vers la découverte de l'autre énorme chapitre du travail de Catherine Auroi, c'est-à-dire le Moyen-Orient essentiellement. Mais ce Vietnam, un regard 50 ans plus tard, puisque la guerre s'est terminée en 1975, il y a 50 ans exactement, est quelque chose d'extraordinaire, et de le faire à travers un regard de femme, c'est tout à fait remarquable. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de photographes féminins, importants, de toute nationalité, mais à l'époque, certainement, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Elle ne se proclamait pas particulièrement féministe ou pas, elle était photographe, comme Dick et Chappelle d'ailleurs, comme ça, mais en fait, elles ont ouvert la voie à toute une génération de photographes tout à fait remarquables. Voilà, c'est un personnage remarquable, qu'il faut, oui. Avec ses défauts, avec ses le livre les souligne tout aussi bien que ses qualités, mais c'est un personnage complet et qui mérite qu'on s'y intéresse à travers l'exposition et à travers le livre qui va sortir très prochainement.
Merci à vous et à bientôt.
Merci, merci, merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
La pêche dans les rochers, rock fishing, peut être une activité pittoresque, surtout sur les côtes australiennes. Mais l'océan est imprévisible, ce qui rend la pêche dans les rochers également dangereuse. Un dossier de SBS News. Les autorités tentent de renforcer la sécurité en sensibilisant aux procédures et aux équipements de sécurité. Si certaines choses peuvent paraître évidentes, elles sont souvent négligées par les plaisanciers et les pêcheurs dans les rochers. Alex Barrell est le directeur général de Marine Rescue en Nouvelle-Galles du Sud. Il souligne l'importance d'équipements comme les gilets de sauvetage.
This is your typical horseshoe life jacket, and again a great piece of equipment for rock fishing because it's not cumbersome. So you can still fish quite easily, you can get access to your fishing equipment. But again, if you go in the water, it's easy to activate, and some of these are actually automatically activating. And of course, when it goes off, there's plenty of buoyancy to keep you and your head above the water, importantly, before rescue crews can get to you.
Un gilet de sauvetage augmente de 50% vos chances de survie en cas d'accident entraînant une chute. Il est également important d'emporter une balise de localisation d'urgence. Alex Barrell explique que ce type d'équipement permet non seulement de prévenir les accidents, mais aussi de contribuer à votre survie si vous en possédez une.
This is an EPIRB, which is required when boating more than 2 nautical miles off coast. But even if you're rock fishing, a personal locating device, which is much smaller than this, but applies the same technology, if you activate that beacon, that will go straight to the Australian Maritime Safety Authority, which will alert emergency services.
Les autorités recommandent également le port de chaussures antidérapantes pour la navigation de plaisance ou la pêche dans les rochers. Et dans certaines régions du pays, c'est désormais une obligation légale. 4% des décès par noyade en Australie chaque année est dû à la pêche dans les rochers, selon Alex Barrell.
Rock fishing can be a dangerous sport. We know that 8 people on average a year lose their life rock fishing in New South Wales. It's so important that they check their safety, check the conditions before they go, that they've got the right safety equipment with them, and they tell someone, importantly, where they're going fishing.
Les personnes nées à l'étranger représentent 60% des noyades liées à la pêche dans les rochers en Australie. Alex Barrell affirme qu'un peu de préparation peut également contribuer à votre sécurité.
Unfortunately, we see people from non-English speaking backgrounds overrepresented in our statistics, and that doesn't matter whether it's rock fishing or boating. So it's really, again, it's about putting safety front in mind. Make sure that they check the conditions before they either go boating or rock fishing and again have that safety equipment ready and available and importantly know how to use it.
Ce dossier de Sunil Awashti et Georgia Maher de SBS News a été produit par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Rappel des titres de ce jeudi, l'Australie s'est fixée pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 62 à 70% d'ici 2035. La mobilisation de ce jeudi 18 septembre en France et 900 000 manifestants sont attendus partout dans le pays. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous le week-end, samedi et dimanche. Et pour le prochain live, c'est mardi prochain à 13h. Bel après-midi, à bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.